à toutes et à tous, vous êtes sur RTVFM et vous écoutez l'émission Comme tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté de la presse et notamment de la loi Sécurité Globale qui a été adoptée par l'Assemblée nationale ce jeudi 15 avril.
Alors oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une émission assez spéciale puisque nous n'avons pas d'invité en raison du contexte sanitaire. Nous n'avons pas réussi à trouver des personnes qui pouvaient se déplacer dans un rayon de 10 km. Donc aujourd'hui, on va parler avec Margot de la liberté de la presse, qui est un principe fondamental de nos démocraties. En effet, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen la garantit en disant que tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement dans les cas déterminés par la loi. La liberté de la presse est donc indispensable car elle est liée à la liberté d'expression. C'est d'ailleurs cette liberté qui nous permet, Margot et moi, de nous exprimer aujourd'hui à cette antenne. Et c'est ce qui a permis la naissance de beaucoup de médias.
Donc on a décidé aujourd'hui de vous parler de ce sujet-là parce que la loi Sécurité Globale, donc, qui a été déposée en octobre 2020 à l'Assemblée nationale par les députés de la majorité La République En Marche, Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, vient d'être adoptée entièrement par l'Assemblée nationale ce jeudi 15 avril. Plusieurs articles qui composent cette loi avaient été signalés par des organisations non gouvernementales ou des associations, comme par exemple Amnesty International ou Reporters sans frontières, notamment concernant l'article 24 de la loi, qui interdit la diffusion d'images de policiers visant à nuire à leur intégrité physique ou psychique. Mais la loi Sécurité Globale inclut également d'autres restrictions. Le floutage des policiers, la mise en place de drones en activité dans toutes les interventions policières, la transmission en direct des caméras piétons portées par les policiers, mais aussi le port d'armes pour les forces de l'ordre hors service.
C'est un peu une atteinte à nos libertés individuelles parce que se retrouver tout le temps dans la rue avec des policiers armés, ça nous met un peu dans un climat encore plus d'insécurité puisque même si l'excuse utilisée c'est souvent pour protéger les citoyens et les citoyennes, mais de mon côté personnellement ça me fait un peu peur de me retrouver toute la journée avec des personnes qui sont armées. Et donc du coup il y a forcément des changements dans la vie des citoyens et des citoyennes à cause de cette loi.
Donc cette loi, elle a également un impact que ce soit dans la vie des citoyens, mais aussi dans la liberté de la presse, étant donné qu'elle interdit au même titre les citoyens et citoyennes que les journalistes de filmer la police, que ce soit par exemple lors d'interventions policières dans le cadre de manifestations ou bien simplement lors d'interventions policières. Et donc ce qui pose problème dans cette loi, ce n'est pas seulement l'interdiction de filmer la police, mais c'est surtout le fait que les journalistes ne pourront pas non plus le faire et donc qu'il n'y aura aucun intermédiaire pour donner de l'information claire et précise entre les interventions policières et les citoyens et qu'il n'y aura pas du coup de personne qui sera témoin et qui pourra valider de ces interventions-là si elles portent atteinte à l'intégrité physique ou morale d'une personne des forces de l'ordre.
Et puis du coup, c'est aussi très dérangeant pour les personnes qui sont victimes de violences policières, parce que souvent, ce qui aide à avoir des preuves pour un futur procès, par exemple, ou pour qu'il y ait un semblant de justice envers la victime, c'est justement que l'agression soit filmée, et le fait qu'on ne puisse pas reconnaître un policier ou une policière, c'est dérangeant pour ces victimes-là parce qu'on sait que les violences policières, malheureusement, existent et que s'il n'y a pas de preuves, elles sont compliquées à prouver. Et en plus, ces violences ont souvent un impact psychologique sur les victimes et ce n'est pas quelque chose qui a nié. Enfin, c'est la diffusion de ces images qui ont permis justement de faire connaître le fait qu'il y a en fait justement des violences policières en France et dans le monde entier. C'est ce qui a réussi à faire connaître l'assassinat de nombreuses victimes et ce qui a permis de montrer qu'il y avait ces violences. Et sans la diffusion de ces images, peut-être qu'il y aurait eu encore plein d'autres victimes sans qu'on le sache.
On a pu observer des violences qui ont été assez nombreuses envers des journalistes lors de manifestations. Et le problème étant que les journalistes qui, à cette époque-là, ont voulu filmer les interventions policières qui étaient plus ou moins violentes lors de mouvements sociaux ont été entravés dans leur liberté d'exercer leur métier et notamment dans le fait de filmer et de diffuser leurs images sur ces réseaux sociaux comme on disait tout à l'heure Twitter.
La liberté de la presse, en effet, elle évolue avec le temps parce que les plateformes comme Twitter ou Instagram, elles se démocratisent de plus en plus. Forcément, il faut que la législation s'adapte là-dessus parce que maintenant, tout le monde, entre guillemets, peut être journaliste et peut publier des vidéos. Peut publier des vidéos lors de manifestations, lorsqu'il y a des violences dans la rue, etc. Donc c'est pour ça que cette loi en fait a été faite, je pense. Pour moi, c'est parce que le gouvernement n'aime pas trop que tout le monde entre guillemets devienne journaliste et sans forcément du coup qu'il y ait de carte de presse en fait. Parce que c'est aussi beaucoup de contrôle qu'il y a eu pendant des manifestations de savoir si les journalistes avaient vraiment une carte de presse pour qu'ils aient accès à certains lieux, ce qui n'est pas le cas de tous les journalistes puisque beaucoup sont indépendants et publient leur travail sur les réseaux sociaux. On continue à parler de liberté de la presse, tout de suite c'est Grégory Porter, le titre Revival. A tout de suite sur RTVFM, vous écoutez l'émission comme tout le monde. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down, and I'm afraid. When you lift me high up out of the fire, out of the flames, I lost the fear. When you give me meaning again, I'm singing revival, revival, revival song. Revival. I'm singing revival, revival, revival song. Revival. I try and define you. Lost my way, walk in the darkness in search of day. C'était le titre Revival de Grégory Porter. Vous écoutez l'émission Comme tout le monde sur RTVFM. Et aujourd'hui, on parle de liberté de la presse avec Margot.
Tout à l'heure, nous disions que plusieurs associations s'étaient opposées à la loi Sécurité Globale, notamment l'association Reporters sans frontières, qui est une association internationale et qui, chaque année, fait un classement sur 180 pays. En 2020, la France est classée 34e sur 180. On explique ces chiffres qui ne sont pas fameux, même s'ils restent dans la moyenne finalement, par justement ces violences envers les journalistes durant les mouvements sociaux. mais également par d'autres facteurs, comme par exemple l'appartenance des médias à des gros groupes financiers qui impactent sur l'indépendance du média, mais également à tous ces médias qui sont nationalisés, donc qui appartiennent à l'État, ainsi que d'autres raisons qui impactent sur les situations des journalistes en France.
Mais c'est vrai que l'appartenance à certains médias, à de gros groupes, ça impacte vraiment l'indépendance des médias et ça impacte du coup les médias indépendants directement. Il y a un grand problème de moyens parce que des grands groupes comme Bouygues détiennent des médias comme TF1 et il y a aussi par exemple LVMH qui détient des médias comme Le Parisien ou Radio Classique. Du coup, ça pose un gros problème parce que les médias indépendants, comme je peux prendre l'exemple du média La Marseillaise, ils sont en difficulté. La Marseillaise est en redressement judiciaire depuis, je crois, depuis 2018. Et parce que, justement, il manque de subventions et c'est un gros problème. Mais la liberté de la presse, elle est aussi impactée par les décisions politiques qui sont prises dans les différents quinquennats. Par exemple, sous le quinquennat Sarkozy, il y avait beaucoup de craintes sur la liberté de la presse sous ce mandat parce que c'est la télévision suisse qui a qualifié les décisions de Nicolas Sarkozy en disant que le but était de faire peur aux médias en les sanctionnant selon ce qui était fait et selon sûrement l'orientation de l'information qui était donnée, par exemple.
Sous le quinquennat Macron, l'historien de presse Alexis Lévrier explique qu'il est plus difficile d'exercer le métier de journaliste depuis son élection, donc depuis l'élection du président de la République, Emmanuel Macron. En effet, depuis son arrivée à l'Élysée, seulement une partie des journalistes sont autorisés à le suivre. De plus, certains événements peuvent faire douter de la totale liberté de presse en France, comme par exemple les perquisitions au siège de Mediapart suite à des recherches sur des ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite, ce qui nous montre quand même un investissement du gouvernement et de la politique dans la presse nationale et une limite des recherches que les médias puissent faire sur les gouvernements actuels.
Mais du coup, on peut se questionner aussi sur si la neutralité est vraiment une bonne chose pour un journaliste, parce que, au fond, est-ce que la neutralité, ce ne serait pas justement l'information qui est guidée vers ce que pense un gouvernement ? Je dis ça pas forcément que pour la France, mais dans tous les pays aussi, il y a cette question de neutralité d'information d'un journaliste, alors que c'est clairement impossible de faire de l'information neutre. Par exemple, même dans un JT, ce qui peut paraître le plus neutre possible pour le grand public, et ben au final non, puisqu'il y a quand même un choix des sujets qui est fait, et ce choix il n'est pas anodin. On choisit de parler de certaines choses mais pas d'autres, et du coup ça montre que c'est impossible pour un journaliste d'être neutre. Et le fait que les politiques aient une influence sur la presse, c'est assez mauvais pour nos démocraties, justement.
On continue de parler de la liberté de la presse en France et de la loi Sécurité Globale après une pause musicale. Tout de suite, c'est All I Need de Jake's Bug. Vous êtes sur RTVFM et vous écoutez comme tout le monde.
Don't let me down. It don't let me down. Cause I know my mind.
C'était le titre All I Need de Jake Bug. Vous écoutez l'émission Comme Tout le Monde sur RTVFM et aujourd'hui on parle de liberté de la presse.
Avant de continuer sur ce sujet, on va écouter un extrait d'une interview de Harry Halimi, avocat au barreau de Paris, qui parle de la fameuse loi sécurité globale dont on parlait avant la pause musicale.
atteinte au droit de la presse et au droit d'informer. Ensuite, parce que, évidemment, on pense qu'il n'y a que les personnes qui vont diffuser des images avec l'intention de nuire aux fonctionnaires de police qui vont pouvoir être poursuivis. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. La réalité, c'est que vous avez un journaliste qui diffuse en live dans une manifestation, il pourra être interpellé dès lors que le policier pensera qu'il diffuse avec l'intention de nuire. À partir de ce moment-là, il sera menotté, placé en garde à vue, envoyé au tribunal. Il n'appartiendra qu'au tribunal de déterminer si l'intention de nuire est prévue. En attendant, le journaliste, ou bien le défenseur des droits de l'homme, ou bien la victime de violences policières, devra payer des frais d'avocat et ne pourra pas diffuser, bien évidemment, ces images qui permettront éventuellement de montrer une violence policière. La deuxième chose, c'est que l'atteinte à l'intégrité physique, c'est déterminé, mais l'atteinte à l'intégrité psychique, c'est extrêmement large. Ça peut être n'importe quoi. Vous avez un fonctionnaire de police, une fois qu'il a déposé plainte et interpellé un journaliste, par exemple sur un champ de manifestation, qui peut très bien aller aux UMJ, c'est-à-dire les unités médico-judiciaires, dans le cadre de sa plainte, pour faire des doléances psychologiques et dire « voilà, je souffre parce que j'ai vu mon image sur les réseaux ». Bien sûr qu'on peut toujours filmer, mais à quoi bon filmer si on ne peut pas diffuser les images qui montrent une violence? Par exemple, vous avez l'affaire de Geneviève Leguet, ainsi que l'affaire de Cédric Chouviat. Deux personnes, Geneviève Leguet, c'est une dame de 74 ans qui a été poussée par des policiers. Emmanuel Macron avait dit que les policiers n'avaient pas touché Geneviève Leguet. Il s'est avéré que la diffusion d'images sur les réseaux sociaux ont permis de faire éclater la vérité. Avec cette nouvelle loi, Geneviève Leguet n'aurait pas eu sa vérité et même peut-être qu'elle aurait pu être envoyée en prison ainsi que son avocat parce qu'ils ont diffusé les images d'un fonctionnaire de police. Cédric Chouviat, un livreur de 42 ans avec 5 enfants qui est mort avec le larynx écrasé et étranglé par des policiers à Paris au cours d'un simple contrôle routier. Là aussi, c'est grâce à la diffusion des images de policiers et à un appel à témoignage fait sur Twitter qu'on a pu obtenir que la vérité éclate. Sinon, eh bien, la préfecture avait dit qu'il y avait simplement un malaise cardiaque et la famille de Cédric Chouviat n'aurait pas eu sa vérité. Ces affaires n'existeraient pas, ou pratiquement pas, aujourd'hui, dans l'opinion publique. Et peut-être même que ceux qui ont diffusé ces images pourraient se retrouver devant un tribunal s'ils continuaient à la diffuser aujourd'hui. Il faut bien comprendre que cette proposition de loi, c'est un ensemble, c'est un tout. Il y a bien évidemment l'interdiction de diffuser, mais il y a également la surveillance généralisée par les drones et également la centralisation des images. Il faut bien comprendre que la philosophie de ce texte, c'est voir pour l'État sans être vu pour les citoyens.
Donc voilà pour du coup l'aspect juridique de cette loi sécurité globale. Et maintenant, on va écouter l'extrait de la quotidienne de Mediapart qui s'appelle À l'air libre, qui est présentée par Valentino Berti.
C'est l'article 24 qui pose problème puisqu'il empêchera ou au moins dissuadera les journalistes de filmer les policiers en exercice. Et d'ailleurs, avant même que cette loi soit votée, on en a eu la preuve pendant cette manif. Ça se passait donc derrière l'Assemblée, place Édouard Herriot. La manif s'est éternisée une fois la nuit tombée. Puis les manifestants ont voulu improviser un cortège sur le boulevard Saint-Germain. La police les en a en empêché. Alors, bref, comme on dit, ça a dégénéré. Et ça, quoi qu'on en pense, ce sont des infos qu'on doit être en mesure de pouvoir filmer. Donc des journalistes, sans doute aussi des citoyens, étaient sur place, venus faire leur travail. Mais hier, comme si certains policiers, déjà galvanisés par cette future loi qui va les protéger, appliquaient déjà cette future interdiction de filmer. Démonstration en trois étapes. D'abord, il y a eu des intimidations verbales. Sur ces images, on entend un drôle d'avertissement.
Les journalistes qui ont une carte officielle, je vous demande de la présenter et de partir. Maintenant, on a pour ordre d'interpeller. Si vous êtes dedans, on vous interpelle également.
Idem pour le journaliste Clément Lanneau, qui filme en dehors des tensions et en étant identifiable, et pourtant menace et dialogue de sourds.
Non, mais monsieur, c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde, c'est la loi.
Du coup, vous voulez que je fasse quoi, là,
concrètement? Ben, vous quittez l'endroit.
Mais c'est mon travail. Vous voulez m'interpeller?
Oui, monsieur, un ordre de dispersion a été ordonné.
Mais on est journaliste, j'ai une carte de presse.
Oui, monsieur, c'est valable pour tout le monde, y compris pour les journalistes.
Ensuite, deuxième étape, classique mais toujours choquant, une entrave physique. Le reporter Simon Louvet, violemment dégagé par les policiers alors qu'il faisait son travail. Voilà donc des exemples comme ça, on en a bien d'autres. Par exemple, un journaliste de France 3 a aussi été interpellé et placé en garde à vue au grand désespoir de sa rédaction. Et là, vous vous dites, oui, c'est encore Mediapart, contre la police, qui milite, etc. Eh bien non, la défenseure des droits, tout récemment nommée par Emmanuel Macron, elle aussi s'inquiète. Elle avait déjà rendu un avis très critique sur cet article 24 et sur la loi sécurité globale. Eh bien, elle a récidivé. La défenseure des droits explique dans 11 pages très argumentées pourquoi plusieurs articles de cette loi posent problème pour la démocratie, et en particulier sur l'article 24. Elle estime que l'infraction prévue par cette proposition de loi n'est pas nécessaire à la protection des policiers. Elle porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression et crée des obstacles au contrôle de leur action. Elle ajoute « Les temps difficiles ou le contexte ne sauraient en rien justifier l'atteinte aux libertés fondamentales que porte ce texte. Difficile de la contredire. » Et pour rappel, et pour paraphraser un grand penseur de Mediapart dont les haïkus peuplent les murs de la rédac, le droit à l'information n'est pas un privilège des journalistes, c'est un droit des citoyens.
Donc c'était un extrait de l'émission « À l'air libre » de Mediapart, animée par Valentine Auberti. Et donc on peut voir qu'à travers les deux extraits que l'on vient d'écouter, ainsi que tout ce que l'on a dit depuis le début de cette émission, que ce soit sur la loi sécurité globale ou bien, en règle générale, sur la liberté de la presse en France, même dans les démocraties occidentales telles que la France, des formes de contrôle et d'autocensure existent. Si le développement d'Internet a ouvert de nouvelles possibilités, et si les usagers des réseaux sociaux et des webmédias font preuve d'inventivité, l'accès à une information libre et indépendante demeure souvent un combat. La loi sécurité globale en est un exemple flagrant, où les journalistes sont empêchés de faire leur travail librement.
Eh bien, merci Margot, et merci à vous de nous avoir écoutés. C'était l'émission Comme tout le monde sur RTVFM. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver cette émission et ainsi que les références de cette émission en podcast sur le site rtvfm.net. On vous dit au mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt sur RTVFM.